Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique, avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour, janvier 2024, victoire pour la préservation du fleuve Tavignanu, en Corse, reconnu juridiquement comme personne morale. En quoi ce cas corse inspire à considérer le vivant différemment? Que signifie la reconnaissance d'un écosystème ou d'un être vivant comme personne morale? Quels sont les exemples à travers le monde de reconnaissance du vivant à ce titre? Quels freins résident encore en France et en Europe pour ne pas entamer un changement de paradigme pour préserver le vivant? Quels projets sont actuellement enclenchés pour atteindre cet objectif? Depuis quelques années, plusieurs organismes de défense de l'environnement se mobilisent pour éviter l'installation d'une méga décharge sur le fleuve Tavignanu. Ce fleuve, le deuxième plus long fleuve de Corse, dont la partie concernée par le projet est classée site Natura 2000, a bénéficié en décembre 2021 d'une motion visant à reconnaître les droits du Tavignanu, attribuant au fleuve une personnalité juridique à part entière. Le fleuve Tavignanu, ou le Tavignanu, est devenu dans sa riche simplicité Tavignanu. Depuis cette reconnaissance officielle par l'Assemblée de Corse, la valeur de cette composante du paysage ne peut plus être ignorée. Ainsi, lorsqu'en juin 2023, la société en charge des travaux de méga décharge dépose une dérogation autorisant la destruction, l'altération, la dégradation de sites de reproduction d'espèces animales protégées, la préfecture de Haute-Corse n'accède alors pas à leur requête. Cette prise de position ferme a été rendue courant janvier et met à l'honneur la mobilisation citoyenne, notamment via les divers recours et manifestations du collectif Tavignanu Vivo. Il ne reste plus qu'à faire reconnaître ces droits du Tavignanu auprès de la Cour européenne. Ce type de projet de reconnaissance n'est pas isolé dans le monde, mais demeure encore peu courant en Europe. Au cours des dernières années, la Nouvelle-Zélande et l'Inde ont accordé la personnalité juridique à trois fleuves, tandis que la nouvelle constitution de l'Équateur a fait de la nature un sujet de droit. À contre-courant d'une dynamique consumériste sans considération des écosystèmes qui l'alimentent, cette démarche remonte aux années 70, avec les travaux de Christopher Stone. En 1972, pour contrer un projet de la Walt Disney Company qui menaçait une forêt de séquoia, ce juriste proposa d'accorder des droits aux arbres. Avec ce texte, il contribua de façon décisive à la prise de conscience de la valeur intrinsèque du vivant. L'originalité de sa position tient à son caractère juridique. En conférant à la nature le droit de se défendre en justice par l'intermédiaire de représentants, il ouvre la voie à sa considération au-delà de sa rentabilité économique. De l'Équateur à l'Ouganda, de l'Inde à la Nouvelle-Zélande, par voie constitutionnelle, législative ou jurisprudentielle, des fleuves, des montagnes, des forêts se voient progressivement reconnaître comme des personnes juridiques. Quand ce n'est pas la nature dans son ensemble, la Pachamama, la terre-mère, qui est promue sujet de droit. Jusque-là, plutôt circonscrite à des régions où vivent des populations autochtones, cette évolution juridique s'est étendue à l'Europe, avec en septembre 2022 le vote par le Sénat espagnol des droits de la Mar Menor, une lagune d'eau salée située sur les bords de la Méditerranée, près de Murcie en Espagne. Cette reconnaissance s'est accompagnée de l'institution d'un mode de gouvernance. Ce projet, comme tous les projets de reconnaissance des droits du vivant à ce jour, et partie des populations locales, avant d'être repris et adopté par le Parlement. En novembre 2016, en France, la loi sur la biodiversité reconnaissait le préjudice écologique. Plus récemment, en juillet 2023, la province des îles Loyauté, une des trois régions de Nouvelle-Calédonie, a doté le requin et la tortue marine de droits fondamentaux. Ces évolutions prouvent qu'une transformation est bien en cours aujourd'hui. Dans notre pays, des discussions sont actuellement en train de prendre place afin de comprendre comment les collectivités peuvent intégrer cette vision du vivant dans les politiques publiques. Le débat est vaste et l'organisme de référence pour guider les discussions des agents de la fonction publique, ID&Co, a ouvert les portes d'une écriture différente de nos territoires. Alors attention, je ne dis pas que cela va changer du jour au lendemain, mais il est bon de noter que des initiatives existent. Je vous propose donc un extrait du discours du président ID&Co pour comprendre les motifs du lancement de ce débat.
Pour la première fois dans l'histoire de la planète, l'homme a changé le développement global. C'est colossal, vous savez que ceci impacte tellement que les géologues ont décidé que nous avions changé d'ère géologique. Une ère géologique, ça se change que dans des circonstances exceptionnelles. Quand le pôle Nord devient le pôle Sud, quand une catastrophe colossale éteint le règne des dinosaures et de tous les grands animaux sur Terre. Donc nous avons changé d'ère, c'est vraiment dire l'importance de ce qui nous arrive. Alors, on pense que la conséquence, c'est le climat. On ne parle que du climat. Mais beaucoup plus important que le climat, c'est la biosphère qui est en jeu. C'est notre survie. On peut survivre à 4 degrés, mais on ne peut plus survivre sans pollinisateurs. Alors, pourquoi n'arrivons-nous pas à nous mobiliser devant l'urgence? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi est-ce que pudiquement nous cachons derrière les mots, on parle d'érosion de la biodiversité? Alors, l'érosion, quand on est à 60%, 90%, 80% de la disparition du nombre d'individus dans une espèce, ça ne s'appelle pas érosion, ça s'appelle disparition, ça s'appelle extinction, ça s'appelle effondrement. Et alors donc, on est très pudique, on ne veut pas ces mots parce que ça fait très, très, c'est très mal de les prononcer. Alors, serions-nous aveugles? Ou peut-être sommes-nous en panne de concepts? En panne d'idées. Qu'est-ce qui mobilise les hommes? Qu'est-ce qui mobilise la société? Ce sont des idées nouvelles. C'est peut-être ça qui nous manque. Pouvons-nous continuer à être aveugles comme nous le sommes? Une nouvelle alliance vitale est vraiment nécessaire, mais ce qui nous manque, c'est l'outil intellectuel, le concept. Alors j'ai trouvé, peut-être que vous connaissez Philippe Descola du Collège de France, qui nous propose une réflexion autour d'une cosmopolitique, c'est-à-dire un changement de regard qui nous entraînerait, qui nous permettrait d'englober plus que l'humain dans nos réflexions. Donc il y a de l'espoir, on va progresser, mais un des outils, ça sera celui du concept, ça sera un outil intellectuel.
L'article L360-1 du Code de l'environnement permet depuis l'année dernière au maire de prendre un arrêté sur sa commune permettant de réguler ou d'interdire la fréquentation d'un site afin de préserver des espaces naturels ou des espèces. En Ardèche, il a été utilisé par le maire de Chauzon pour créer une zone de quiétude sur une partie de falaise permettant ainsi la restauration de la biodiversité des falaises et notamment la réinstallation de l'aigle de Bonelli sur un ancien site vacant. Cet article de loi donne donc de nouveaux pouvoirs aux maires volontaires pour la protection de la biodiversité de leur territoire. Entre la loi sur la biodiversité et cet article du Code de l'environnement, est-ce vraiment nécessaire d'accorder la pleine personnalité juridique à des êtres vivants ou des habitats? Être reconnu en tant que personne morale signifie que chacune des parties dispose du droit à un avocat, sans condition de ressources. C'est donc la possibilité de bénéficier d'un traducteur linguistique pour les vivants non humains. Dès lors, pour défendre des entités naturelles, il faudrait non seulement des représentants, mais surtout des traducteurs, c'est-à-dire des humains parlant la langue de l'entité concernée. Des gardiens, en quelque sorte. C'est là que pourraient être appelés à la barre les scientifiques, ou toute autre personne en capacité de traduire les besoins et intérêts de tel fleuve, telle forêt, tel être vivant. Dans cette histoire, ce qu'il apparaît comme déterminant est d'établir une relation entre sujets de droit, humains et non-humains, voire entre les non-humains eux-mêmes, comme c'est déjà le cas entre les individus et les personnes morales, les entreprises, les assos, les syndicats. Imaginez une invasion d'animaux qui vont vraiment nuire à un écosystème. Dans ce cas de figure, on peut rencontrer un conflit de droit entre une espèce animale et une espèce végétale. Et donc là, à ce moment-là, on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces entités. Et en fait, c'est de leur donner le droit de se défendre, de défendre leurs intérêts respectifs. Donc face à tout ce dialecte juridique, on peut se demander si cela ne revient pas, encore et toujours, à ce que l'humain, dans sa vision limitée, quoique documentée, s'estime apte à trancher face à des êtres vivants, dont la complexité des interactions nous dépasse largement. Cependant, partons du principe que ce type de mesure soit généralisé. Quel progrès incroyable nous ferions pour comprendre ce qui nous entoure et les interactions que nous avons avec ces derniers. Imaginez la réflexion collective et la conscience indéniable de ce qui nous enrichit et nous nourrit. Serions-nous capables dès lors d'écouter et d'évoluer vers un futur différent de ce vers quoi tendent tous les modèles scientifiques, à savoir un déclin de vivant dans sa diversité et la chute de nos civilisations actuelles? Ce projet de reconnaissance des droits du vivant fait écho à un autre projet figurant parmi les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, l'idée de légiférer sur l'écocide. S'offre donc à nous la possibilité de sanctionner au pénal la destruction délibérée des milieux naturels, ou bien une anticipation de ces projets destructeurs en donnant la capacité aux non-humains de faire valoir leur droit d'exister. Ces idées ne sont pas concrétisées pour l'instant. Mais de pareilles métamorphoses juridiques, en cours ou en devenir, sont-elles le signe annonciateur d'un renouvellement de nos modes de pensée? Rappelons que seul le droit international pourrait acter à grande échelle ces transformations majeures et que pour l'heure, il n'en est pas encore question. Après avoir exposé tant de nouvelles, je vous propose de tendre la feuille un instant au récit d'une chenille, animal hermaphrodite fascinant des monts en feuilles. Iel s'adresse à nous aujourd'hui de ses voix multiples. L'azur. Récit d'une chenille.
Dans ma bulle, je suis bien. J'ouvre les yeux. Tout est blanc autour. Par transparence, je vois la lumière franche. Quel est cet appétit que je sens en moi ? Il faut que cette bulle éclate.
Je croque, je craque, ça y est, je le vois, le soleil.
Sous mes pieds, la feuille, ses nervures, ses plis, ses miroitements, je prends des forces.
Qu'y a-t-il plus haut, plus loin ?
Je glisse le long de la tige, je laisse le vent baigner ma tête nue, j'avance dans l'épaisse forêt des herbes vertes, je marche.
Fourmis, odeur de pervenche, de narcisse et de menthe, délicieuse délice.
Et puis, je te vois, toi aussi tu marches comme moi.
Tu respires comme moi,
nous regardons. Quelle est cette ombre, cette menace? Vite, je m'enfuis, j'ai peur. Tout est noir, j'avance tête baissée.
Tu es encore là, moi aussi.
Nous respirons bruyamment. C'est bon d'être vivant. Les herbes se penchent, la lumière se fait longue et sombre.
Ploc, ploc, ploc.
Non, il faut fuir encore. D'énormes gouttes s'écrasent sur mon dos, de plus en plus lourdes.
Sous l'arbre vient le calme, passe le danger. J'ai besoin de me protéger, de m'isoler. J'ai besoin de comprendre. Que s'est-il passé depuis que je suis né?
Je ne bouge pas, je m'enveloppe dans mes pensées. Je m'enroule. Petit à petit, le monde disparaît. Je n'entends plus aucun bruit.
Le silence descend en moi. À l'abri, je réfléchis. Tout prend forme.
Je le sais, je le comprends. C'est lumineux. Je suis fait pour l'immensité. Je prends de grandes bouffées d'air. Je lutte. Les murs cèdent, ma tête sort. Puis le reste de mon corps est dehors, dans un grand bruit, comme un claquement de tonnerre. Crac ! Voici que je déploie mes ailes.
Je suis libre, l'azur, l'azur.
Et tu es là, avec moi. Nous volerons dans l'air transparent, dans l'or du soir, dans les tempêtes tempétueuses. Oui, nous serons heureux. Oui, nous serons heureux.
Si la métamorphose des chenilles a toujours fasciné, des artistes travaillent à retransmettre ces paroles dans un dialecte que nous, humains, serions capables d'écouter.
Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla.
La Fondation Cartier a mis à l'honneur en 2020 des êtres vivants silencieux qui ont accompagné nos civilisations humaines depuis leur commencement. Les arbres. En invitant à considérer les arbres comme des acteurs essentiels de notre monde commun, l'exposition « Nous, les arbres » a pour ambition de leur rendre la place que l'homme, voire les animaux, leur ont soustraite. Dans une des pièces de l'exposition, on retrouve les œuvres d'artistes en interaction avec la célèbre forêt amazonienne. Réunissant peinture, monotype et une table herbier, l'artiste Louise Zerbini orchestre dans son œuvre la rencontre imaginaire entre la flore amazonienne luxuriante et les signes de la modernité urbaine brésilienne. À cette forêt urbaine, entre rêve et réalité, répondent les dessins de trois artistes Yanomami de l'Amazonie brésilienne, Calipi, Yoseka et Etoa Yahara. Ces habitants de la forêt sont un des peuples autochtones dont il est important aujourd'hui d'écouter la voix et de reconnaître les savoirs. Représentant les arbres qui les entourent et dont ils utilisent les fruits, les feuilles et l'écorce pour se nourrir, se soigner ou accomplir des rites chamaniques, ils évoquent dans leurs dessins une forêt monde, peuplée d'une multitude d'êtres visibles, hommes, animaux et végétaux, ou invisibles, entités maléfiques et esprits chamaniques. Quand le géant silencieux confie son histoire, saurons-nous l'écouter, au même titre que le minuscule encore terré dans la pénombre. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à un énième passionné du vivant dans la série L'écologie aux petits oignons.
Pain des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.